podcast de Radio Vatican.
Aux Philippines, sur l'île de Mindanao, dans la ville de Marawi, les affrontements continuent entre l'armée et insurgés islamistes du groupe Maote. Le 23 mai dernier, les forces philippines arrivent dans cette ville à majorité musulmane pour tenter de trouver le leader d'Abu Sayyaf, un groupe islamiste qui a fait allégeance à Daesh. En réaction, un groupe terroriste local, le groupe Maote, s'empare de plusieurs lieux dans la ville. Ils incendient la cathédrale et prennent en otage une quinzaine de catholiques. Le bilan des combats est de plus de 200 morts. Des milliers de personnes ont dû fuir la ville de Marawi. Le président Rodrigo Duterte a décrété la loi martiale sur l'ensemble de l'île de Mindanao le 24 mai dernier, une île dont la majorité musulmane réclame une plus forte autonomie par rapport à Manille. Des accords de paix ont été signés, le dernier remonte à 2014, un accord entre le gouvernement et le Front islamique Moro de Libération, mais certains groupes refusent tout dialogue avec l'autorité de Manille et veulent continuer la lutte armée. Régis Anouilh est le rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence de presse des missions étrangères de Paris. Il revient sur l'identité du groupe islamiste Maote qui a pris le contrôle de la ville de Marawi. Il est interrogé par Sarah Bakaloglou.
Les négociations ont débouché en 2014 sur un accord important, mais qui reste à appliquer. Donc effectivement, une partie des combattants du Front Moro de Libération Islamique ont refusé cet accord de paix. Et puis ensuite, ces autres groupes que l'on voit actuellement à l'œuvre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les négociations qui ont lieu en marge des combats pour effectivement que l'armée philippine reprenne le contrôle de Marawi, eh bien, les dirigeants du MILF, du MILF, et les religieux musulmans de Mindanao ont déclaré qu'ils condamnaient les actions menées à Marawi par ce groupe islamiste et qu'ils mettaient en place des corridors de paix avec l'armée, donc ils agissaient côte à côte avec l'armée philippine pour évacuer les civils pris au piège de ces combats qui sont effectivement non seulement qui durent mais qui sont très, très, très meurtriers, très difficiles. Donc il y a une volonté politique de la part du Front Moro de Libération Islamique, comme des représentants religieux à Mindanao du monde musulman, de ne pas se solidariser avec cette rébellion musulmane, mais au contraire de dire qu'il faut sauver effectivement l'accord de paix tel qu'il a été signé en 2014.
Et comment le président philippin Rodrigo Duterte a géré ce dossier depuis son élection ?
Il l'a géré à la manière dont on connaît la façon d'agir du président Duterte. Il a pour lui de connaître la région. Il a été maire de Davao, une grande ville du sud philippin, durant 22 ans. Il est lui-même, et c'est une première pour des très hauts dirigeants philippins, apparenté à des musulmans. Sa grand-mère était musulmane. Un de ses fils, sauf erreur de ma part, est marié à une musulmane. Donc il y a des liens personnels, des liens familiaux. Il connaît encore une fois ce terrain de Mindanao mieux que ses prédécesseurs. Maintenant, il mène effectivement les négociations à sa façon, à la façon d'un président populiste dont on ne connaît pas véritablement l'ensemble des intentions. J'en veux simplement pour preuve qu'effectivement, si les combats sont très durs dans la ville de Marawi, ils sont circonscrits à la ville de Marawi. Et le président, dès le lendemain du jour où les combats ont éclaté le 23 mai, dès le lendemain, le 24 mai, le président a décrété la loi martiale pour l'ensemble de l'île de Mindanao. Mindanao, c'est une île immense, c'est une île très importante du sud philippin, dont la plupart du territoire n'est pas concerné par ces actions de violence. Donc il y a une volonté, effectivement, la politique, d'imprimer sa marque, et on ne sait pas tout à fait jusqu'où cela ira tant que cette crise n'est pas résolue.
Oui, une loi martiale qui a donc été critiquée. Quel souvenir elle évoque, cette loi martiale, aux Philippins et aux opposants de Duterte ?
La loi martiale, c'est immédiatement pour l'esprit des Philippins le temps de la dictature Marcos. Marcos était maintenu au pouvoir en 1972, justement en décrétant la loi martiale, la loi martiale qui n'a jamais levé jusqu'à son départ du pouvoir en 1986. Donc il y a cet héritage, en tout cas cette mémoire historique dans l'esprit des Philippins et également des responsables de la société. Les évêques catholiques des Philippines, il faut toujours rappeler que les évêques ont un poids politique important. Ils ne font pas de la politique aux Philippines, mais ils ont un poids important. Ils ont apporté effectivement un soutien mesuré à la loi martiale. Un soutien parce que effectivement cette crise de Marawi doit être résolue, mais mesurée parce que encore une fois la mesure de la loi martiale semble peut-être disproportionnée par rapport aux événements, encore une fois très circonscrits localement.
Le père Michel de Gigor a été missionnaire aux Philippines, à Mindanao et notamment à Marawi pendant près de 20 ans. Artisan du dialogue interreligieux dans cette ville à majorité musulmane, ce prêtre des missions étrangères de Paris revient sur l'histoire de ce lieu.
L'histoire l'histoire des Philippines et surtout l'histoire de Mindanao, depuis que les Espagnols sont arrivés aux Philippines, donc en 1565 à peu près, le XVIe siècle en tout cas, c'est une histoire continuelle d'affrontement entre les musulmans et les chrétiens. Ça se comprend par le fait que quand les Espagnols sont arrivés aux Philippines, ils venaient de se débarrasser de la présence musulmane en Espagne. Les Espagnols sont arrivés aux Philippines pour tomber sur des musulmans. Et ça explique, si vous voulez, ça explique tout. Parce que dès le départ, il y a eu une mésentente forte entre les chrétiens qui arrivaient aux Philippines et leur déception d'y trouver des musulmans qui les avaient précédés.
Alors, Rodrigo Duterte, le président philippin, veut ramener la paix à Mindanao, comme certains de ses prédécesseurs. Pourquoi est-ce si difficile? Est-ce qu'il y a eu des avancées ces dernières années tout de même?
Celui qui a tout foutu en l'air de nouveau, c'est le président Marcos, qui a utilisé cette animosité entre les chrétiens et les musulmans pour appuyer son pouvoir en déclarant une loi martiale sur l'ensemble du territoire des Philippines. Et ça a provoqué une guerre qui a fait entre 100 et 150 000 morts. Et depuis, les gouvernements qui ont suivi Marcos ont tous essayé de régler cette situation qui est extrêmement volatile, complexe, parce qu'elle n'est pas simplement une affaire religieuse, c'est une affaire politique, c'est une affaire économique, c'est une affaire culturelle, et c'est une affaire aussi historique. Il y a tout un contentieux historique derrière ces relations entre les chrétiens et les musulmans. Et donc Duterte va essayer de faire quelque chose, mais il promet mont et merveille, mais moi je pense qu'il réussira pas beaucoup mieux que les autres. Et je pense en particulier que la déclaration de la loi martiale est une très grave erreur qu'il est en train de faire. C'est pas par la force qu'on va régler ce problème, c'est pas du tout par la force, c'est plutôt par des négociations, une reconsidération de toute la polémique islamo-chrétienne depuis des générations. C'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps.
Alors justement, concernant le dialogue interreligieux, quelle est aujourd'hui son ampleur? Est-ce qu'il existe toujours à Marawi?
Écoutez, le dialogue interreligieux fait véritablement partie de l'histoire récente des Philippines, en particulier donc sur l'île de Mindanao. Moi, j'y ai été très 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 impliqué et j'ai pu voir des tas de réalisations très belles, très courageuses, très belles, de rencontres, de demandes de pardon, de camps de jeunes pour faire vivre des jeunes pendant plusieurs jours ensemble, pour se découvrir d'une autre façon que dans la seule confrontation. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais si vous voulez, ça reste quand même une goutte d'eau dans l'océan, quoi. C'est toujours la même chose. Combien de gens sont impliqués là-dedans? Peut-être des centaines, mais c'est tout petit par rapport à la population globale, quoi. Et là, moi, j'ai très, très, très peur que cet événement-là sur Marawi, ça fasse reculer tous ceux qui, courageusement et avec beaucoup de conviction, font ce dialogue. Et est-ce qu'ils vont pas être complètement déçus, désorientés, perdre un petit peu l'espérance?
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.